À tous les cas, je vous remercie d'être là, parce que vu le temps qu'il fait, c'est vraiment très, très courageux de votre part, et moi, ça me fait très plaisir. Et qu'on soit 50 ou 4, on peut parler d'amour. Au contraire, on va être dans une intimité agréable. Je vais vous parler d'amour, ce sentiment qui nous transcende, qui nous fait nous dépasser et qui nous fait réaliser des chefs-d'œuvre quand on est deux, en fusion, et qu'on est dans un domaine littéraire, pictural, sculptural, sportif ou politique. Quand deux êtres sont en osmose et quand ils s'aiment, ils font naître des œuvres d'art. Mais ce soir, je vais surtout vous parler de l'amour parce que j'ai écrit ce livre à travers les couples célèbres. Mais mon vrai prétexte, c'est de parler de ce sentiment amoureux. Parce qu'en fait, les couples célèbres n'ont rien inventé. Ils n'ont pas inventé une façon d'aimer. Pourquoi ils sont tourmentés, eux? Parce que finalement, comme ils sont célèbres, ils sont adulés, chouchoutés, courtisés. Ça attise les jalousies. Parfois, ils cèdent aux sirènes, et donc d'où les tourments de ces passions. Et puis, il y a aussi un second élément, qui est que ces couples célèbres sont souvent séparés, parce que l'un ou l'autre font des carrières. Et l'amour, je crois, pour durer, a besoin d'une certaine permanence. Il faut se côtoyer. Alors, je vais vous parler de Dora Maar et Picasso. Dora Maar, elle est photographe de plateau, elle travaille sur un film de Jean Renoir et elle a croisé Picasso qui lui est marié avec Marie-Thérèse, il a un fils et une petite fille et elle veut absolument le rencontrer et elle imagine un stratagème extraordinaire, vous allez voir. Elle sait que tous les après-midi, il est au Domago vers 15h. Elle s'assoit donc à une table des deux magots et quand Picasso arrive, il s'installe lui aussi. Et elle prend un petit canif, elle a des gants noirs, Dora Maar, avec des petites roses en laine sur les gants. Et elle prend un petit canif comme ça entre ses doigts. Évidemment, elle tape un petit peu la table de bois pour qu'il la regarde. Et elle s'égratigne légèrement les doigts, entre les doigts, la peau, hein. Elle ne se blesse pas très fort, mais en tous les cas, il y a quelques petites gouttes de sang qui arrivent sur les roses roses, en laine, sur ses gants noirs. Alors évidemment, Picasso est absolument subjugué par la scène. Il va à sa table, ils échangent quelques mots, et il est d'autant plus séduit qu'elle parle en castillan, en espagnol, et parce qu'elle a vécu quelques années à Buenos Aires dans son enfance, donc elle parle couramment l'espagnol. Ils parlent tous les deux sur le trottoir et ils discutent à bâtons rompus. Elle lui propose de faire son portrait. Il arrive dans son atelier en par-dessus, vous savez, le macho, le taureau que c'était avec ses yeux de feu. Et elle commence à le photographier, il est en par-dessus. Ensuite, il est en marinière. Ensuite, il est en torse nu. Évidemment, vous pensez ce qui peut se passer au bout de la scène. Donc, elle est sa maîtresse. Elle supporte quand même très mal qu'il navigue entre sa maîtresse et sa femme. Donc, quand Jean-Louis Barrault quitte son atelier rue des Grands Augustins, elle propose à Picasso de vivre avec lui dans cet atelier. Il passe des journées absolument torrides, faites de peinture, de photographie. D'ailleurs, il lui conseille de commencer à peindre, parce que finalement, c'est en faisant de la photographie où elle est très, très douée qu'elle lui fait de l'ombre, parce que Picasso, depuis quelque temps, a abandonné ses pinceaux. Donc, on arrive en 37. Picasso voit le village de Guernica bombardé par les Allemands. Il en est très, très frappé. Et c'est Dora Maar qui lui propose de tendre une toile géante dans leur atelier de la rue Saint-Augustin pour peindre ce tableau très, très fameux, un des plus célèbres et des plus chers au monde, Guernica. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Dora Maar en est vraiment... Une des créatrices, parce qu'elle photographiait en négatif tous les jours l'avancée du travail de Picasso et lui revoyait son travail le lendemain par rapport aux ombres et lumières qu'il voyait sur les négatifs de Dora Maar. Alors bon, c'est l'amour fou. Ils partent tous les deux à Antibes, à Royan. Picasso peint là les tableaux les plus chers du monde, qui sont la femme au fouloir, la femme sur la plage. Elle lui fait quand même de plus en plus de scènes parce qu'elle est très très amoureuse. Et quand on est amoureuse, on ne partage pas son amour avec une autre, parce qu'elle le veut, pour elle seule. Donc c'est vrai aussi que Picasso, il attise cette tragédie, ce psychodrame en elle, parce qu'il la peint. Alors il la peint, plus ça va, plus il la peint en aigle, par exemple, avec des immenses lèvres rouges, avec des ongles crochus, comme si elle allait le dévorer. Il va même peindre Dora Maar avec des seins en croix gammée, un visage avec des traits de biais, avec des pieds énormes d'éléphant. Et Dora Maar dira toujours : ce sont des Picasso, mais c'est pas moi, parce qu'elle se reconnaissait pas avec cette figuration des trans amoureuses. Bon, tant bien que mal, leur relation a duré quand même 10 ans. Le dernier épisode en date, ils partent à Royan. Picasso lui dit on va descendre à Royan avant la Deuxième Guerre mondiale. Il coule là des jours heureux quand André Breton, qui était là, qui avait une petite fille, apprend que la femme de Picasso est à Royan. Donc, il a loué une maison pour sa femme, où il a son atelier dans le jardin. Et tous les deux, avec Dora Maar, ils sont à l'hôtel du Tigre. Et Picasso dit que tous les matins, il va entendre les nouvelles au bar du coin et lire les journaux. En réalité, il va voir sa femme. Donc, elle apprend, Dora Maar apprend que Marie-Thérèse Walter est là également. Alors, elle lui fait des scènes épouvantables et Picasso la frappe, la bat. Ça, c'est nouveau dans leur histoire d'amour. Et entre la frêle et gentille et douce épouse et Dora Maar, la plantureuse brune avec ses yeux bleus d'acier, c'est vrai que Picasso se réfugie de plus en plus vers sa femme et que Dora Maar le supporte de moins en moins. Donc, elle le quitte. C'est elle qui le quitte, mais en réalité, Picasso a aussi dans son atelier une jeune élève qui s'appelle Françoise Gillot, qui a 22 ans. Et Dora Maar ne peut pas lutter contre cela, donc elle le quitte. Mais en réalité, il l'aurait quitté et elle le savait bien, mais elle est fière. Et donc, elle retourne dans son atelier qui lui sert d'appartement, rue de Savoie, à Paris. Et là, elle perd un peu la tête. Par exemple, un soir, elle va à la pagode, elle jette ses chaussures au plafond, elle dit qu'elle est persécutée. On l'enferme à Sainte-Anne. Et Picasso, quand même, par derrière, en coulisses, la surveille et l'aide. Et il paye Lacan pour la soigner. Elle sort plus ou moins de cette dépression très, très grave. Et là, elle se met à faire la folle entre le Luberon, où Picasso lui avait acheté une petite propriété à Ménherbe. Alors, elle fait la fête avec et Balthus et Breton et Gallimard, Léonore Fini. Vous voyez, c'est toute cette époque qui est très, très festive, où on sort de la guerre et où on a envie d'une extravagance et de fantaisie. Et puis, d'un coup, Dora Maar, elle a 53 ans, elle s'enferme avec une quinzaine de cages d'oiseaux dans son appartement. Donc, quand on lui téléphone, elle dit « ne m'appelez plus parce que les oiseaux font trop de bruit ». Et en fait, elle ne participe plus du tout à la vie à l'extérieur. Elle ne fait que se nourrir et boire. De temps en temps, elle vend une des œuvres parce que Picasso lui a donné plus de 300 dessins et peintures, sculptures. Par exemple, quand il était avec elle à Royan, il peignait sur des galets. Et Dora Maar a tout ça. Donc, de temps en temps, pour vivre, elle vend une petite pièce. Et finalement, elle est pratiquement morte de 53 ans à 90 ans, parce qu'elle ne mourra qu'à 90 ans, mais en fait, elle est endormie. Elle est morte, elle ne vit plus. Et Paul Éluard avait été veuve de Nuch, qui avait été déportée, lui avait proposé d'unir sa solitude à la sienne. Et Dora Maar lui a dit non, parce qu'après Picasso, seulement Dieu. Voilà, ça c'est vraiment une histoire où une femme n'a qu'un seul amour dans sa vie et pas un deuxième. Et voilà, et toute sa vie, elle a vécu avec cet amour. Voilà, après Picasso, seulement Dieu. Elle était très, très courtisée, même quand elle avait 50 ans. Je vous parlais, si vous voulez bien, de Maria Callas et d'Onassis, si vous voulez bien, parce que c'est une histoire qui est méconnue. On pense qu'Onassis, finalement, s'est servi de Callas, etc. Alors, c'est deux fauves de la même race, c'est deux Grecs. Maria Callas, elle vient de perdre 30 kilos. Elle est passée de 95 kilos à 65 kilos. C'est une des plus belles femmes du monde, une des femmes les plus célèbres. Elle a des rôles déjà de Médée, de Norma, Aïda, Violetta. Donc elle fait le tour du monde. Quand elle est invitée à un gala à l'hôtel Dianelli à Venise, un gala en son honneur, et elle frôle donc Onassis, qui est absolument subjugué lui aussi par cette femme grande, avec ce port de reine. Enfin, la Callas, vous la voyez, on ne la décrit pas. Elle avait les cheveux attachés en chignon bas. Elle était habillée ce soir-là avec une jupe blanche, avec des pois noirs, avec une taille, une grande ceinture blanche, qui lui enserrait la taille. Et c'est vrai qu'Onassis, on peut penser qu'à ce moment-là, il s'est dit, je vais la mettre à donc au tableau de chasse de toutes mes conquêtes. Elle était mariée avec Menengini, voilà, qui était son mentor. Il avait 30 ans, je crois, depuis qu'elle, ou 25 ans depuis qu'elle, ça n'a pas une grande importance, un bedonnant qui l'apprenait pour une machine à chanter. Et d'ailleurs, elle lui disait très souvent, vous aimez la Callas, mais pas moi, la femme. Et donc, elle était mariée, effectivement. Onassis était marié lui aussi, avec une fille d'armateur un peu plus jeune que lui. Il avait deux enfants, Alexandre et Christina. Ils avaient chacun leur vie amoureuse de leur côté. Et tout ça se passait bien, en tous les cas pour Onassis. Donc, première rencontre, ils se frôlent seulement. Mais il s'est passé quelque chose, forcément, même pour la Callas, parce qu'elle s'est sentie regardée comme une femme et peut-être comme un objet sensuel, et pas seulement comme une diva. Ils se sont donc adressés la parole. Il a invité Maria Callas et son mari sur son yacht, le Christina. Elle lui a dit non parce que je dois chanter au Covent Garden à Londres. Il lui a dit, eh bien, je serai là. Comme à son habitude, il lui a fait envoyer une centaine de roses rouges avec une petite carte. Elle a été très sensible, évidemment, aux gestes. Et donc, Onassis, qui n'aimait que les chansons populaires grecques et pas du tout l'opéra, a tremblé en l'écoutant chanter réellement. Et je crois que là, il est vraiment tombé amoureux fou de la Callas. Bonjour. Bonjour. On parle d'amour ici. Merci d'être venu. Et donc, il est tombé amoureux fou. Alors, imaginez la Callas, c'est Médée, son rôle. Elle arrive dans un char, elle est habillée tout en noir, et autour d'elle, il y a des serpents, et elle est en train de chanter. Vous imaginez, donc Onassis ici, qui avait des sueurs, et vraiment, il est tombé amoureux d'elle, et c'était pas du tout, je vais en faire un nouveau trophée. C'était un russe, mais il était quand même romantique, il était quand même beau parleur, il était quand même... il avait du charme, Onassis. Moi, je ne l'ai jamais trouvé beau, et vous non plus, j'imagine, mais il avait du charme. Et surtout, pour la première fois, la Callas s'est sentie regardée, mais comme une femme, et comme une femme qu'on désire, et pas seulement comme une voix, comme un mythe, ou comme une muse de l'opéra. Et donc, après ce Covent Garden, ils se sont revus une autre fois, ça c'est le hasard de la vie, quelques mois plus tard, encore une fois à Venise, au Danieli, où il y avait encore une fête. Et là, il s'est monté très pressant pour l'inviter une autre fois sur son yacht. Elle lui a dit, je ne sais pas, mais peut-être que j'aurais envie de me reposer. Je chante à l'Opéra de Paris, je ne sais plus ce qu'elle chantait, Normal, à Norma. Et ensuite, je verrai. Donc, il est allé, évidemment, donc Onassis, l'écouter chanter. Il a refait le truc, évidemment, des 100 roses rouges avec sa carte de visite. Et il a offert un dîner en son honneur après son tour de chant avec des invités très prestigieux où il y avait toujours Grâce de Monaco, Régnier, enfin tout ce beau monde. Et elle lui a dit, effectivement, je suis fatiguée, je vais aller me reposer sur votre yacht, sur le Christina. Elle est arrivée sur le Christina à Monaco au mois de juillet. Son mari, le pauvre, avait le mal de mer. Il est resté enfermé dans la cabine pendant toute la traversée. Ils sont allés se promener dans les îles grecques. Et dès le début du mois d'août, chaque soir, on voyait mon Onassis dans les bras de la Callas, en train de danser. Et donc, tous ces gens, il y avait Burton, il y avait sur le yacht, il y avait évidemment le prince Régnier de Monaco, Grâce. Je crois qu'il y avait Greta Garbo sur ce yacht. Il y avait Liz Taylor, sûrement, oui, avec son Richard, cœur de lion. Et puis... Donc, ils ont vu, si vous voulez, ces soirs chauds d'été sur le Christina, ces deux couples se désagréger et cet amour naître, quoi. Je ne sais plus qui disait, il aurait fallu une lance à incendie pour les séparer. C'est bien qu'ils étaient bien collés tous les deux. Quand ils sont arrivés à Istanbul, Onassis, qui était quand même un malin, il faut bien voir, parce que la Callas n'était pas une femme facile, quand même. Elle voulait bien parler grec avec lui, manger des saloperies grecques, comme elle disait, et boire de l'ouzo. De là à aller dans son lit, elle était très difficile quand même. Et donc, Onassis l'a emmenée à Istanbul chez un patriarche orthodoxe qui les a bénis. Évidemment, elle a pris ça comme un mariage, ou en tous les cas comme une sorte de sacrement. Et quand elle est montée sur le bateau, la nuit, ils sont après le dîner avec les convives prestigieux. Elle n'a pas retrouvé son mari, Gros Batista, dans sa loge et dans sa cabine, et elle est restée avec Onassis. Aux yeux et aux vues de tout le monde, elle a rompu avec son mari le matin même. Il a décidé, lui, de vivre dans leur maison de campagne, et elle est restée à Milan. Et donc Onassis, malgré sa grande occupation pour ses affaires, puisque c'était à l'époque, je ne sais pas, il avait une cinquantaine de voiliers, de pétroliers. Il avait la compagnie aérienne grecque, il avait les bains de Monaco, enfin c'était vrai, il était vraiment le plus gros armateur également au monde. Donc il a des affaires, il se déplace en jet privé, etc. Dès qu'il avait un petit moment, il filait à Milan. Il prenait ma Callas dans ses bras, il l'emmenait dans des restaurants, on les voyait au Savoie, qui était un hôtel 5 étoiles à Milan, on les voyait dans des restaurants au son des violons, il l'aimait vraiment. Et quand il l'accompagnait à l'aéroport, elle serrait un bouquet de roses rouges, il n'y en avait pas 100 évidemment, sur sa poitrine, et lui, quand il partait, quand elle partait, ou quand lui l'a quittée sur l'aéroport, sur le tarmac, il avait vraiment les larmes aux yeux. Donc c'était vraiment un véritable amour, un grand amour. Donc il passait, quand elle ne chantait pas, quand lui il avait un peu de temps, il passait de plus en plus de temps tous les deux dans les îles grecques, et les villageois se souviennent encore de leurs éclats de rire, parce que tout ça était quand même arrosé à l'ouzo. Et elle voulait, c'est là qu'elle a peut-être c'est un petit peu trompée quand même, parce qu'il aimait la femme, il aimait aussi la Callas, on ne peut pas lui reprocher. Elle ne voulait plus chanter, elle voulait lui laver ses chaussettes, lui faire des salades grecques, etc., lui faire un enfant. Alors c'est vrai que, bon, il s'est un petit peu éloigné d'elle, donc à ce moment-là, il a vraiment insisté pour qu'elle chante. Elle a chanté Aïda à Épidaure. Je me souviens des titres de presse que j'ai découpés que j'ai trouvé dans les bibliothèques, où il y avait un des titres qui était « Elle aurait pu décrocher une étoile du ciel ». Elle a chanté à Épidaure, au théâtre d'Épidaure, devant 20 000 personnes. Tu connais, toi, le théâtre d'Épidaure. Tu imagines, là, la Callas avec un ciel donc étoilé. Bon. Donc là, évidemment, il voulait pas qu'elle, il voulait bien qu'elle soit sa femme, il voulait bien lui faire un enfant, il voulait pas pour autant qu'elle cesse de chanter. Bon, et donc ce qui se passe, c'est que elle voulait plus chanter, elle voulait plus faire de vocalises, elle se baignait, elle faisait les boutiques. Elle vivait, quoi. Elle en avait marre parce que depuis l'âge de 8 ans, elle travaillait. Et on peut très bien comprendre qu'elle avait un petit peu envie de souffler dans le giron d'Onassis. Elle était enceinte, elle avait 36 ans. Et là, vraiment, elle voulait plus chanter, ou en tous les cas... Et elle perdait un peu sa voix parce que quand elle a chanté pour l'anniversaire, c'était le... Elle a chanté, il y avait en même temps l'anniversaire de Kennedy. Je ne me souviens plus exactement de ce qu'elle a chanté ce soir-là. Mais c'est vrai que quand Marilyn Monroe a chanté « Happy Birthday, Mr. President », la prestation de la Callas est restée un peu en retrait. Et donc, elle n'a pas eu la presse et le succès, donc elle escomptée. Et de toute façon, elle avait pas encore plus de voix, là, mais... mais beaucoup de sa voix. Alors, on peut penser, il y en a qui ont dit, c'est parce qu'elle avait perdu des kilos. Elle disait, j'ai perdu du poids, je perds un peu ma voix et je vais perdre Onassis. Elle sentait, elle avait une sorte de, elle sentait que elle pouvait pas être à la fois être mère, être auprès d'Onassis et sa femme grecque en train de le servir et de le couver, de lui dire de mettre un cache-col, etc., et continuer à être la diva. C'est difficile de mener sa vie de femme amoureuse, de groupie d'Onassis, et de continuer à être une diva.
Par contre, pardon.
Elle était sûrement un peu déjà... Bon, elle attendait que... Donc, cet enfant, pour répondre à votre question vraiment... Elle ne voulait pas qu'Onassis, qui faisait des affaires, la voie enflée, enceinte, etc. Elle a exigé une césarienne, donc avant terme. L'enfant, qui s'appelait Amorino, n'était pas en bonne santé. Il est mort trois jours après. Il est enterré dans un cimetière à Milan, d'où ce livre. On ne connaît pas bien la vie de ces personnages célèbres, la vie amoureuse, la vie intime.
Amorino.
Oui, Amorino. Je ne sais pas ce que ça veut dire en italien. Amour, amour, sûrement. Donc, c'est vrai que cet enfant n'a rien fait pour relancer leur amour, mais Onassis a quand même été très présent. Il l'a emmené sur une île grecque où ils étaient tous les deux à Scorpios. Quand un amour fuit, comment on fait pour l'attiser? Comment il faut faire? Je ne sais pas. Les gens célèbres n'ont pas le secret. Ils sont comme nous, parce que leur histoire, je répète, elle nous ressemble. Mais on sent que ça part, que c'est bon. Kennedy est assassiné. La sœur de Jackie Kennedy, Lee Radziwill, qui voyait des contrats commerciaux avec le milliardaire Onassis, l'a invité à l'enterrement. Il s'est lié des liens. Onassis avait été très, très, très humilié par le président Kennedy, qui le traitait de pirate international. Et là, il s'est mis dans sa tête, comme un jeu, de conquérir la veuve la plus célèbre du monde.
Et il avait conquis les d'abord.
Il avait déjà... C'est plutôt elle qui l'avait un peu attiré dans sa couche. Elle était... très coquine, la sœur de Jackie Kennedy. Donc, il avait lié des liens, et surtout avec la mère des Kennedy, Rose, voilà, vous connaissez bien, hein, vous, Rose, qui était une magouilleuse extraordinaire et qui voyait surtout le pouvoir derrière les milliards d'Onassis. Donc tout ça par derrière, la Callas n'en savait rien du tout, sauf l'été qui a suivi la mort de Kennedy, l'assassinat. Onassis a dit à Maria Callas, je veux recevoir un couple prestigieux sur le Christina, il serait quand même bon que tu ne sois pas là, parce que comme c'est un amour illégitime, j'ai peur de les blesser. C'était dingue quand même. Donc là, elle a commencé à avoir la puce à l'oreille, mais elle espérait toujours qu'il l'épouse. en guise de bague de fiançailles, il lui a offert un appartement, avenue Georges Mandel à Paris, à la Calas. Et elle décorait son appartement, elle écrivait à ses copines, elle disait « je suis très paisible, mais est-ce que quand on est paisible et sereine, on est heureuse ?» Elle disait « je ne crois pas ». Elle sentait qu'il y a quelque chose qui se travait. Elle a appris le mariage quand même par la presse. Par la presse, elle a appris le mariage. Elle est sortie ravissante à une soirée de gala. Et lorsque les journalistes l'interviewaient, elle disait « Il est quand même bon que Monsieur Onassis, que Jackie Kennedy donne un grand-père à ses enfants. » Vous voyez, comme elle l'avait un peu mauvaise. Bon, donc ce mariage, 3 jours après, Onassis a dit « J'ai fait des conneries dans ma vie, mais là, alors, c'est vraiment la grosse bêtise. » Il s'est aperçu qu'il l'aimait pas, qu'il aimait la Calas. Il allait la voir tous les soirs, elle lui interdisait sa porte. Il téléphonait de la cabine téléphonique à l'angle de la rue Georges Mandel vers la place du Trocadéro pour la supplier de l'ouvrir sa porte. Elle a bien entendu fini par lui ouvrir sa porte, et on le voyait qui partait au petit matin. Onassis a perdu son fils, comme vous le savez, dans un accident d'avion. Ça l'a vraiment foudroyé. Il est mort en 1975. Maria Callas avait 51 ans, et elle a dit « la vraie veuve, c'est moi, et c'est pas Kennedy, Jackie ». Elle est morte 2 ans après, et elle s'est laissée mourir, en fait, de tristesse. Moi, j'ai des amis journalistes qui sont allés chez elle, l'avenue Georges Mandel, et qui m'ont dit qu'elle avait mis des gros rideaux de velours grenat à ses fenêtres, qu'elle n'ouvrait jamais, jamais, et elle écoutait ses disques en boucle, elle ne sortait plus, elle avait repris du poids. Et en fait, quand on ne veut plus vivre, on meurt, et on l'a trouvée morte un matin. Est-ce qu'elle a un petit peu exagéré sur les doses de somnifères, sur les doses de tranquillisants? On ne le saura jamais. On ne va pas faire une autopsie. Ça ne servait à rien. Elle est vraiment morte de chagrin. Et ces deux êtres-là, on ne connaît vraiment très mal leur histoire parce que c'est le plus grand amour que l'un et l'autre ont vécu dans leur vie. Tous les deux. Ça a duré que 10 ans, mais c'est vraiment leur plus grand amour à tous les deux. C'est une très, très belle histoire. Un peu triste, mais est-ce que les grandes histoires d'amour, très passionnées, je répète, leur amour nous ressemble. Elles ont souvent des destins tragiques, quand même. De toute façon, les grandes histoires d'amour ont toujours des destins tragiques, parce que l'un disparaît, on ne disparaît pas en même temps. Donc, quand on est très, très amoureux et en osmose, et qu'on a vécu pendant 9 ou 10 ans, ou 20 ans, ou 30 ans auprès de l'autre, en plus, l'amour avec les années se transforme. Il y a une métamorphose, il y a la tendresse amoureuse qui se met là. Mais l'amour, pour moi, c'est vraiment être deux. C'est-à-dire, on est deux dans une bulle. On est deux contre le monde entier, quoi. On est deux, on a trouvé quelqu'un avec qui traverser l'existence. C'est ça, l'amour. Est-ce que vous voulez que je vous parle d'un troisième couple ?
Avec plaisir.
Alors, je vais vous parler d'un troisième couple. On fait un petit peu bref parce qu'on ne va pas dans les détails. Ce qui est important, c'est de parler, je crois, de la rencontre. C'est très, très important, de l'évolution du sentiment et comment ça finit. Donc, on va un petit peu vite. Alors, je vais vous parler peut-être de Richard Burton et Liz Taylor. Alors, Liz Taylor, j'ai rattrapé le texte très, très vite parce que j'ai envoyé mon texte à l'éditeur. Elle est morte, elle nous a quittés 3 jours après. J'ai vite rattrapé donc à l'imprimerie. Alors, Richard Burton, Liz Taylor. Richard Burton est un mineur gallois, comme elle l'appelait. Il faisait du théâtre, il n'était pas très célèbre. Il a une femme, Sibylle, et 2 filles. Liz Taylor est célèbre. Elle prend des millions de dollars pour chaque film, très capricieuse. Elle a déjà été mariée 4 fois. 4 fois, elle a 3 enfants, elle a 30 ans. Liz Taylor, elle dit, quand on aime, on se marie, quand on n'aime plus, on divorce. Elle l'a prouvé, hein, je crois.
2 mariages, je crois.
Incroyable. Alors, il y a un film qui est programmé à Cinecittà, dans les studios de Rome, et Richard Burton est le Marc-Antoine, et Elizabeth Taylor est la reine du Nil, pour tourner Cléopâtre. Lui, il dit « Oh, oh, elle est mignonne, la Miss Tits », il l'appelait la Miss Nichon. Il l'appelait aussi la Guenon, elle ne le savait pas au départ, hein. Il l'appelait la Guenon. Alors, ça a commencé comme cela. Pendant une répétition, lui, il était très, très, très alcoolisé. Au whisky, il ouvrait à peine un œil le matin, il ne prenait pas un petit café, il prenait une petite rinçade de whisky. Et donc, pendant une répétition, il devait porter une tasse à ses lèvres dans l'après-midi. Il était frais, vous imaginez, dans l'après-midi. Et il n'y arrivait pas, et elle l'a aidé avec un geste très, très doux à porter la tasse comme ça. Et elle dit, tiens, elle est pas si guenon que ça, finalement, elle est sympa puisqu'elle m'aide. Lui, il était quand même, c'est quand même le macho, quand elle se déshabillait, il jetait un petit œil comme ça, il essayait de la voir nue. Il a fini par y arriver, hein, dans les loges, puisque c'est des caravanes, c'est des trucs un petit peu sommaires. Et eh bien, de baiser en baiser, à un moment donné, il fallait hurler « couper ! Couper !» Il était là, il commençait par lui prendre les épaules, par la ramener contre lui, par la plaquer contre lui. Il était vraiment, vraiment très, très fort. Hein. Burton, c'est grand, massif. Et elle, cette petite chose avec ses yeux violets et la Miss Tits, il lui écrasait les tits sur sa poitrine velue. Donc, et surtout, on s'apercevait que dès que le tournage, les prises de vue étaient terminées, ils filaient tous les deux dans sa caravane et fallait aussi frapper à la porte pour dire « on vous attend ».
Qu'est-ce qu'il faisait dans cette caravane ?
Et qu'est-ce qu'il faisait dans cette caravane ? Il paraît qu'on l'écoutait grincer, la caravane. Mais enfin, ça.
Bon. Ça va alors.
Alors, la famille Burton, parce que Burton ne se déplaçait jamais sans Sasmala. Il y avait le beau-frère, le copain, la belle-mère, la femme et les deux filles. Et Liz Taylor se déplaçait jamais, elle sent une vingtaine de valises, 5 ou 6 chiens, 5 ou 6 chats. Voilà, se déplacer, elle aussi, avec sa ménagerie. Et donc, elle dépensait, avec aussi des amis, elle avait toute une troupe d'amis, de copains autour d'elle, en permanence, qui la suivaient. Elle payait, bien sûr, très généreuse. Et donc, les Fisher, puisqu'elle était mariée avec Elie Fisher, qui était un chanteur, les Fisher invitent un soir dans leur villa, ils avaient loué une villa dans la banlieue de Rome, les Burton. Et Miss Taylor, elle s'aperçoit que mon Burton boit alors que son mari est au Coca-Cola, mange à peine pour garder sa ligne, et Burton, le buveur et tout. Et je crois qu'au-delà du sexe, elle est vraiment tombée amoureuse de Richard Burton, pendant cette soirée où elle avait invité les Burton. Donc, hyper amoureux. Donc, comme Elizabeth Taylor, quand elle aime, elle épouse, elle m'a poussé mon Burton à divorcer. Et Burton avait dit, nous sommes comme deux êtres de feu, nous avons une sexualité, nous avons une extravagance, j'ai jamais connu ça dans ma vie, mais je ne divorcerai pas. Et je ne l'épouserai pas. Et là, Elizabeth Taylor, elle a fait une tentative de suicide, évidemment.
C'est théâtral.
Voilà, parce qu'elle a souvent confondu, Elizabeth Taylor, le cinéma et la vraie vie. Donc, tentative de suicide, Richard Burton a cru, évidemment, qu'elle allait mourir. Il est accouru, il lui a promis de divorcer à ce moment-là. Il lui a offert des diamants. Je ne sais pas combien, pour 100 millions de diamants, etc. Elle lui a offert un Van Gogh. Elle lui a offert une pas une Rolls, mais enfin, ce genre-là. Bon, et donc, il a fallu quand même 1 an et demi pour que le divorce soit prononcé de part et d'autre. Ils sont partis tous les deux se réfugier en Suisse. Et Elizabeth Taylor a fait un peu comme la Callas, là. C'est-à-dire, elle lui a dit qu'elle tournerait moins. Elle lui faisait des petits plats. Richard Burton, dans une interview, avait dit « Je lui ai appris à faire le bœuf je sais quoi et le chop-siou. » Donc, elle savait faire 2 plats, ce qui était une merveille. Donc, il a fêté aussi son anniversaire à Budapest. Il a fêté ses 40 ans au bout de 10 ans donc de 9 ans, là où on en est à 9 ans de liaison. Et puis l'alcool, la drogue, il s'était mis à la cocaïne quand même, Burton, fait que là aussi, l'amour, qu'est-ce qui explique à un moment ? Eh bien, on aime moins et on sent qu'on aime moins. Donc ils ont divorcé. Il l'a appelé un mois plus tard pour lui demander de le rejoindre. Et ils ont dit qu'ils allaient se marier parce qu'ils ne pouvaient pas vivre l'un sans l'autre. Lui, il a dit oui, mais on va se marier parmi nos congénères, on va se marier dans la jungle, en Afrique. Ils sont mariés dans le Botswana. Toujours, on mélange la vraie vie et le cinéma. Ça, c'est... Et je t'offre, alors par exemple, ils se battaient parce qu'ils avaient acheté un yacht avec tout l'équipage, avec les tableaux, le mobilier, etc. Où elle était là, elle, avec ses 10 copains. Lui était là avec toute la famille, les copains des copains. Et le soir, ils jouaient au rami à 10 000 dollars le point. Et on entendait les coups dans leur cabine le soir. Quand Elisabeth, elle était sur le pont le lendemain matin, elle avait des bleus de tous les côtés et elle disait « je suis tombée ». Lui disait « oui, mais on ne peut pas avoir une vie monotone, non s'ennuierait ». Enfin, il y avait quand même de l'alcool, de la cocaïne. Donc, les voilà mariés pour une deuxième fois. Burton avait 50 ans, puisqu'il est mort à 52 ans. Il était déjà très fatigué. Elle buvait de plus en plus. Et ce qui fait que, de toute façon, il avait plus besoin d'une infirmière qu'une actrice de cinéma alcoolique. Donc, il a épousé une jeune, elle avait, je crois, 24 ou 25 ans, qui était auprès d'elle. Elle a essayé de l'oublier dans les bras de Gigolo. Elle a aussi épousé un ouvrier en bâtiment qui avait 25 ans de moins qu'elle. Mais elle lui parlait de Burton tous les jours. Tous les jours. Il hantait ses nuits et ses jours. Et donc, quand Burton a été hospitalisé, elle est allée auprès de lui et ils étaient prêts à se marier une troisième fois. Parce que ni sans toi, ni avec toi. C'était vraiment le... On ne peut pas faire autrement que de se battre, que de s'aimer, que de faire n'importe quoi dans la vie, mais aussi de confondre, donc je le dis encore, le psychodrame. Donc, leur vie amoureuse était un psychodrame. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'Elisabeth Taylor dans la mégère apprivoisée, mais elle faisait exactement ça avec son amour. Vous savez, elle avait pris du poids, parce qu'avec l'alcool, on prend du poids. Elle était de plus en plus... Alors, par exemple, quand elle s'est mariée la deuxième fois... Elle avait des boucles d'oreilles en larmes d'émeraude et des diamants et des jacinthes blanches dans les cheveux. Enfin, c'était vraiment le cinéma. Mais ils se sont aimés. Et quand Elisabeth Taylor, à la veille, elle n'est pas allée au cimetière pour l'enterrement de Burton, mais on l'a vue deux jours après. Il tombait des cordes et sa horde de gardes du corps l'a caché des paparazzi avec leur parapluie et elle était agenouillée en larmes et en tremblant sur la tombe. Enfin, elle a vraiment aimé Burton et ça a été là aussi le seul amour de sa vie. Et certainement pour lui la même chose. Il est mort à 53 ans, elle est morte à 80 et quelques années, donc elle lui a survécu, mais amoureusement c'était fini. Vous savez qu'après elle a eu des cures de désintoxication, donc elle ne buvait plus et elle a vraiment consacré, comme une Bardot a consacré un jour sa vie aux animaux, elle a consacré sa vie à la lutte contre le sida et elle est d'ailleurs enterrée à côté de son copain Michael Jackson. Ça n'a rien à voir avec le sida, mais elle l'a beaucoup secouru et épaulé. Et donc, elle s'est donnée, quand il n'était plus là, à des causes. Ce qui nous fait quand même un couple très sympathique et hors du commun, mais qui ont vécu... Vous savez, il y a des gens... Une est caissière chez Prix Unique, chez Monoprix, maintenant. L'autre je ne sais pas ce qu'il fait dans la vie, est jardinier, mais ils peuvent très bien aussi faire de leur vie un psychodrame. Il y a des gens comme ça, on connaît. On a connu un voisin. Moi, je me souviens, quand j'étais enfant, il y avait des voisins qui se frappaient. Ils s'aimaient, ils se battaient, voilà. Sans la férocité de l'un et de l'autre, il fallait qu'ils allument l'incendie. Sinon, ça ne marchait plus. Alors l'incendie, après, il faut l'éteindre. Alors quand on l'éteint, en général, on se retrouve dans les bras l'un de l'autre et tout va bien et tout repart. Et on rallume l'incendie et on éteint l'incendie et voilà. Et c'est une façon d'aimer. Est-ce que vous voulez que je vous parle d'un autre couple ? Vous voulez qu'on arrête un petit peu ? Alors, il y a un couple que moi, je trouve que c'est la plus belle histoire d'amour de ce livre. J'en ai traité 26. Hein. C'est Marguerite Duras et Yann Andrea. C'est une histoire d'amour, mais donc étonnante. Vous savez pourquoi, je trouve ? Parce que l'un est entré dans l'esprit de l'autre. Il est entré à l'intérieur de son cerveau. Alors, je vous raconte. Yann Andrea est un... Enfin, il ne s'appelle pas Yann Andrea à l'époque. Il s'appelle Yann Lemay. Il est étudiant à Caen. Il lit il veut faire de la philosophie. Donc, il lit Kant et Spinoza et compagnie. Et il tombe sur les petits chevaux de Tarquinia. Et il lit toutes les œuvres de Duras, pratiquement tout, comme ça. Et il tombe amoureux virtuellement de son auteur. Virtuellement. Et il n'a qu'une idée en tête, c'est la rencontrer. Le hasard fait parfois bien les choses. La voilà qui vient faire une conférence sur India Song au cinéma luxe de Caen. Alors Yann Lemay est là, évidemment, au premier rang. Il essaie de lui poser une question, il bafouille, etc. Et à la fin, il a apporté deux ou trois de ses livres. Il lui demande de faire une dédicace sur les livres. Elle dédicace à peine, hein, de Duras, et elle lui dit « J'ai soif ». Et ils vont dans le bar du coin boire des whisky et du vin rouge. Ils se quittent. Elle lui donne son adresse, 5 rue Saint-Benoît à Paris. Pouvez-vous me croire ? Il lui écrit tous les jours. Elle ne lui répond pas pendant 5 ans. On aime ou on n'aime pas, hein ? Bon, là, la preuve. Hein ? Bon. Elle fait un coma éthylique, comme elle en a fait plusieurs dans sa vie. Elle est hospitalisée à l'hôpital Laennec. Et quand elle sort, elle répond à une de ses lettres. Et elle lui dit « Venez me voir, je suis à Trouville », où elle avait une maison, un appartement au Roche-Noire, ça s'appelait Roche-Noire. C'est une ancienne pension de famille, très jolie, très romantique. Et donc, voilà un jeune homme qui a, les âges, peu importe, hein, il doit avoir 23, 24 ans à l'époque. Il frappe à la porte d'une dame mûre qui doit en avoir 63, 64. Elle ouvre la porte, il a une bouteille de vin à la main et il entre dans sa vie. Il entre vraiment dans sa vie. Elle le fait dormir dans la chambre rose de son fils. Elle dort dans la chambre noire. D'abord, excusez-moi, ils dansent le tango, ils boivent du vin, ils chantent La vie en rose d'Edith Piaf à tue-tête. Ils rigolent, quoi. Ils rigolent comme deux personnes saoules. Hein, bon. Deux personnes saoules, mais il s'est passé quelque chose quand même avec ces deux êtres. Parce que lui, dans la nuit, un peu homosexuel quand même, va la voir dans la chambre noire et lui fait l'amour, quand même. Et ils sont enfermés dans ces roches noires à Trouville pendant des semaines et des semaines, tous les deux, à boire, à chanter, à prendre sa limousine à elle, à aller se promener en fleurs, à faire des excès de vitesse, elle lui passe le volant quand elle ne peut plus conduire, ça rigole, les vitres ouvertes, il s'aime, et il s'aime vraiment. Et il devient, avec les mots... Alors, quand elle fait ses escapades à Paris, elle, puisqu'elle est auteure, elle a des obligations en tant que telle, il l'attend, il ne fait rien, il attend Duras, il attend son amour, il prépare la maison, etc. Il devient, au fil des années, il est à la fois son amant, son serviteur, son souffre-douleur, son secrétaire, parce qu'elle fait des... À l'époque, elle écrit des hebdomadaires, une chronique hebdomadaire pour Libération. C'est lui qui la tape. Et elle lui dit, mais tu n'existes pas, tu es un personnage. Je t'invente tous les jours, tu n'existes pas. Tous les matins, je t'invente. Et c'est vrai qu'il ne fait rien. Il commence à être à travers elle. Donc, alors, il y a des moments où quand même, il étouffe. Parce que quand on n'est rien, il y a des moments où on veut être quelque chose, j'imagine. Donc, il s'échappe. Il va dans un petit hôtel, à l'hôtel de la gare, machin. Et au bout du manque d'elle, il l'appelle le matin. Elle lui dit, j'arrive, on va prendre un verre, on boira un verre, et elle va le chercher. Il y a des moments où c'est elle-même qui met tous ses vêtements dans une valise, qui balance la valise par la fenêtre à Trouville. À mon avis, les voisins doivent en avoir un souvenir. Donc, il va ramasser sa valise, il va d'un petit hôtel et il revient. Elle ouvre évidemment la porte, ils prennent un verre et elle lui dit « Mais tu n'as donc aucune fierté, aucune dignité, mais c'est comme ça que je t'aime. » Et tac, et c'est reparti. Et ça dure quand même très, très longtemps puisqu'il reste avec elle 16 ans. À un moment, Marguerite Dresse, elle, à un moment, reste 9 mois à l'hôpital. On pense que c'est la fin. Et miracle, elle peut sortir avec une bouteille d'oxygène. Il l'emmène se promener dans la limousine, au bois de Boulogne, voir les prostituées. Il l'emmène rue Saint-Honoré et elle ne boit plus, là, du tout. Il l'emmène rue Saint-Honoré, ils achètent des macarons au chocolat et des sandwichs. Ils font la fête. Elle n'a plus de jambes à un moment où il la porte. Elle tape plus puisqu'elle n'a plus vraiment la maîtrise de ses gestes. Mais à un moment donné, elle ne trouve plus ses mots non plus. Donc il devine ses mots. C'est là où je vous dis, il est entré dans son cerveau. C'est extraordinaire. Alors elle tombe, elle avait toujours un fauteuil rouge, elle est tombée, il lui relève la tête. Il voit bien qu'elle ne répond plus, il l'emmène sur le lit. En fait, elle est dans un semi-coma. Elle a la force quand même de lui presser le bras, l'épaule. Il s'allonge contre elle, et le matin, donc elle est morte. Il va à l'enterrement, les journalistes sont là, et on lui dit, vous êtes triste? Il dit, je ne suis pas triste, je ne suis plus rien. Il n'était plus rien. Elle lui avait acheté une chambre en face du Flore, parce qu'elle lui avait dit, au moins, tu ne seras pas dans la rue, toi, mon pauvre bon. Et donc, effectivement, il avait un toit, il n'est pas sorti de cette chambre, il commandait des pizzas, des cigarettes et des bouteilles de vin au petit épicier, au petit arabe du coin, qui montait dans sa chambre de bonne. Et c'est finalement ses parents qui l'ont récupéré, qui étaient dans le Lot et Garonne, et on parlait du disparu de la rue Saint-Benoît, parce qu'effectivement, on ne le voyait plus. Aujourd'hui, il a 53 ans. J'ai essayé, moi, de le rencontrer. Alors, par son éditeur, parce qu'il a écrit deux très, très beaux livres. Il écrit comme Duras. Si vous lisez EMD et l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle, Cet amour-là. L'autre livre s'appelle Cet amour-là. Je vous assure, si on vous dit que c'est un bouquin de Duras, vous croyez que c'est un bouquin de Duras. Il écrit exactement comme elle, mais avec des jolis mots, avec des jolies images. Et donc, j'ai essayé de le rencontrer par son éditeur. Il a d'abord répondu que oui, avec un mail. Après, il m'a dit non, je ne peux pas, je suis fatiguée, je suis malade, bon, etc. Je n'ai pas pu. Et je pense que, comme elle disait, tu es ma créature, tu es un personnage, tu n'es rien, je t'invente. Eh bien, c'est vrai que je ne sais pas ce qu'il va faire, ce garçon de sa vie. Voilà, il n'est pas grand-chose. Il doit toucher des droits d'auteur, je suppose, pour le faire vivre. Il doit avoir 53. Alors, Marguerite Duras, au départ, elle a un petit peu... Elle n'était quand même pas très à l'aise, mais après... Alors, elle l'a emmenée chez Saint-Laurent, par exemple, parce qu'elle disait, je ne veux pas qu'il soit habillé comme une cloche, il faut qu'il soit en accord avec mes diamants. Alors, elle lui disait, avance, tourne. Ah non, non, cette veste ne te va pas du tout. Vous imaginez les vendeuses en train de pouffer de rire et de se foutre de lui. Et lui, il disait, je voudrais m'extirper de là, mais je ne peux pas. Il ne pouvait pas s'extirper de là. Et c'est vrai qu'elle l'humiliait. C'était vraiment... Mais elle l'humiliait, mais elle l'aimait. Elle l'aimait vraiment. Elle l'aimait parce qu'elle n'avait aucune obligation de rester avec ce jeune homme, de l'entretenir. Il ne la stimulait pas, puisqu'il n'était rien. Donc, c'est une histoire d'amour, vraiment. Et elle... Vous me disiez, oui, elle était très décriée. Vous vous rendez compte, hein, ils avaient 39 ans d'écart, les deux. Et lui il longeait les murs à Saint-Germain, parce qu'effectivement, on le flattait comme l'amant de Duras. Mais derrière, papa. Et elle en était quand même un peu gênée, parce que quand elle a été reçue à Lisbonne d'abord, où elle avait dit, donc Aurélien, j'écris Aurélien en l'honneur de Yann Andrea. Alors Yann Andrea, pourquoi? Excusez-moi, je fais une parenthèse. Il s'appelait Yann Lemay, mais comme elle a voulu le créer de toute pièce, elle l'a débaptisé, alors elle lui a donné le prénom de sa mère, donc Andrea, voilà. Et après, elle a ajouté le Steiner, qui est un des personnages de ses romans. Anne Andrea.
Qui a été
Steiner. Oui, exactement. Oui. Alors, c'est... Exactement. Et sur le plateau, on savait bien que Yann Andrea était l'amant de Duras, on le savait. Mais pia. Donc, quand elle a été reçue à Lisbonne, elle l'a présentée. Et surtout, quand elle est arrivée à New York, il y a l'attaché culturel français qui était là et qui leur dit, vous êtes à l'hôtel, à la chambre X et à la chambre Y. Et là, elle a dit, comment pouvez-vous supposer qu'il puisse dormir sans moi ? Une seule chambre. Voilà. Elle l'a vraiment... elle avait déjà 70 ans,